Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Tous les mercredis, c'est Théroldi, ou devrais-je dire every Wednesday, we have the pleasure of talking with our friend Jean Héroldi, the fashion mogul of Montreal. Pourquoi? Parce qu'on va parler sûrement de ce que nous dévoile le Journal de Montréal, Journal de Québec, qu'au centre-ville de Montréal, un commerce sur deux, on est accueilli en anglais, dont dans des magasins de guenilles. Bonjour Jean Héroldi.
Hi, bonjour Sophie.
Écoute, on en a parlé de toute façon un petit peu déjà, toi et moi. Je t'avais raconté ma visite chez Uniqlo, là, le nouveau, la bannière japonaise qui s'est établie au centre-ville de Montréal. Puis je te racontais, et je racontais aux auditeurs, que j'y étais allée quelques jours après l'ouverture et que deux employés sur trois étaient incapables de me parler en français et qui m'ont dit, ben là, j'arrive de Toronto. Puis je leur avais répondu, ben moi, si j'arrive à Toronto et que je parle pas un mot d'anglais, je trouverais pas de job. Alors, le reportage du journal vient confirmer ça. Est-ce que toi, tu as été surpris des résultats de l'enquête du journal?
Ben non, parce que quand on se promène au centre-ville, et toutes ces grandes bannières-là qui sont internationales envoient tout le temps des gens qui arrivent de Toronto, qui arrivent des États-Unis. L'exemple de Zara, je trouve que Zara, c'est moins pire présentement, mais au début de Zara, c'était la même chose. Tout le monde parlait en anglais.
Le monde de
la guenille tout court, là, si on va sur Chabanel, où il y a des faibles productions maintenant de vêtements, toute l'industrie du vêtement est en anglais. Les fournisseurs, moi de mon côté, même mes fournisseurs ne parlent que anglais. Si je parle pas anglais, puis je dois vous dire que moi je n'ai arraché pas mal parce que moi j'ai pas un anglais qui est parfait. Et, okay. et même qu'à l'époque où je présentais mes collections à Toronto, je parlais pas anglais, en tout cas pas beaucoup. Je faisais beaucoup plus de sourires puis de clins d'œil que de bons mots. Et pourtant j'avais à me débrouiller vraiment. Et ici à Montréal, on dirait que de plus en plus et on dirait que c'est normal pour les gens. Et je peux comprendre un peu Sophie parce que moi j'ai déjà eu chez moi quelqu'un qui m'aidait, là, une fille qui venait des Philippines, mm-hmm. et elle devait apprendre le français absolument pour devenir canadienne un jour. Et c'était pris assez au sérieux. Mais j'ai l'impression que après, quand ils ont leur papier canadien, ils peuvent amener toute leur famille aussi et eux ne sont pas obligés de parler français. Et sincèrement, je me mets à leur place. Quand tu arrives ici, dans un petit marché comme la ville de Montréal, puis qui ne sortent pas beaucoup des... Tu sais, si tu sors pas du pont, t'as pas en tout cas besoin de parler français. Et je trouve ça dommage qu'on n'exige pas aux gens qui s'en viennent habiter ici de parler français, parce que c'est sûr qu'on va le perdre, notre français. C'est sûr, sûr, sûr. Moi, mes enfants, et avec Internet et tout ça, je trouve que ça aussi, de plus en plus, on vit en anglais. Moi, mes enfants sont parfaitement bilingues. Ils parlent aussi bien en anglais qu'en français.
Mais, oui, mais c'est correct être bilingue.
Mais même si on est deux parents francophones, je vois quand même que l'intérêt de l'anglais et de parler avec les amis en anglais et d'écouter des choses quasi uniquement en anglais, ça change par rapport à ma génération à moi. Ça a vraiment, vraiment changé. Et je pense qu'on s'en va vers le pire, en tout cas pour le côté du langage. Moi, c'est mon feeling que j'ai.
Je te dirais que moi, ça m'inquiète moins. C'est pas cet aspect-là qui m'inquiète. Écoute, moi, quand je suis arrivée au Québec, j'avais 12 ans et, tu sais, j'arrivais de France. Fait que pour moi, l'anglais, c'était vraiment pas quelque chose que je vivais au jour le jour. Mais écoute, quand je suis arrivée au Québec, moi, je passais mon temps à écouter la télévision en anglais. J'écoutais le Cosby Show, j'écoutais Three's Company, je veux dire, ça fait que quand je suis allée à l'université, ben je suis allée à McGill, après ça, je suis allée à Columbia, à New York, et moi, je considérais que c'était un plus. Tu sais, je parle anglais comme je parle italien, comme je parle espagnol. Pour moi, c'est pas ça qui m'inquiète. S'ils parlent anglais et qu'ils maîtrisent parfaitement le français, j'ai aucun problème. Le problème, c'est quand il déconsidère le français, c'est-à-dire qu'il considère que le français, c'est une langue perdue et c'est une langue pas importante. Et c'est ça qu'on voit au centre-ville de Montréal. Parce que ce qu'on voit au centre-ville de Montréal, c'est des gens qui ne sont pas bilingues. C'est des gens qui se contrefichent du français.
Mais moi, je sens ça aussi des familles. Sophie, c'est ce que je te dis. Moi, les amis de mes filles, j'ai même des gens très proches qui ont deux parents francophones et les enfants... Ils parlent français, ils se débrouillent en français, mais ils cassent le français.
Ah ouais.
Et pourtant,
les
deux parents sont francophones. Et ça, je trouve ça inacceptable, premièrement. Mais c'est rendu de plus en plus commun de voir ça, que les parents français se parlent en anglais, les enfants vivent dans un monde plus anglophone et ils vont devenir des anglophones. Moi, j'ai des gens dans ma famille qui aujourd'hui sont rendus des anglophones.
Ah ouais.
Ça donne une idée. Ça veut dire que c'est même les francophones qu'il faut qu'ils changent leur manière de faire à ce niveau-là.
Ouais, c'est-à-dire que moi, ça me tue quand je vois deux francophones qui se parlent entre eux en anglais. Comme si, tu sais, parce qu'ils vont vers, mettons, une phrase, puis là, ils vont se dire, ah, c'est tellement plus simple de se parler en anglais. Tu sais, il y a tellement d'expressions qui sont tellement plus cool, tellement plus chill en anglais. Ouais. Know what I mean, tu sais, puis c'est comme, ils vont constamment recourir à l'anglais, comme si le français...
Ouais. Les jeunes, les ados, ils écrivent tout en anglais, hein.
Sur les SMS,
là. Secondaire, là. En tout cas,
mais je veux revenir. Oui, alors je veux absolument revenir à ce que tu nous disais. Tu disais le monde de la guenille est en anglais, c'est-à-dire que même à Montréal, si tu veux travailler dans ce milieu-là, les fournisseurs puis tout ça, ils ne font pas l'effort de te parler en français.
Ah, pas du tout, parce que premièrement, des fois Montréal est rendu un petit marché. Ces gens-là font de la business à travers le Canada ou à travers l'Amérique. Ils produisent des élastiques, ils produisent des diverses opérations, ils vendent du fil. Et c'est vraiment difficile de parler, de se faire comprendre en français. Moi, j'essaie le plus possible. En même temps, je pratique mon anglais parce que je me dis, bon, ça va m'aider. Parce que maintenant, tu sais, je suis capable de me débrouiller facilement. Mais moi, j'en ai tellement souffert de pas parler anglais que c'est sûr que, tu sais, aujourd'hui que mes enfants parlent anglais, je suis super fier, mais il faut faire attention pour pas traverser la ligne. Et moi aussi, ça m'insulte quand je vais au centre-ville puis que la personne... tu sais, moi, j'habite à l'île des Sœurs, là. Puis je vais vous le dire souvent, puis je comprends en même temps.
À l'île des Sœurs aussi?
À l'île des Sœurs, si je vais au Tim Hortons, il y a des fois là que c'est impossible en français. Mais en même temps, Sophie, c'est que souvent, c'est des gens qui sont arrivés au pays, ça fait pas longtemps, puis les francophones d'ici ne veulent pas travailler au Tim Hortons. Fait que tu sais, là, tu fais comme, ben pauvre personne, t'as un peu pitié, puis en même temps, ça fait pas mon affaire d'être obligé de...
Ouais, mais c'est pas une excuse, tu sais. Moi, c'est un argument qu'on entend beaucoup. C'est des gens qui viennent d'arriver au pays. Mais tu sais, comme mettons, mais tu peux quand même la base. Bonjour, puis merci, puis est-ce que ce sera tout? Tu sais, c'est comme, c'est impossible que quelqu'un qui vient d'arriver est pas capable de nous dire au moins des mots de base. À un moment donné, il y a aussi une frustration. Et je te dirais, Jean, qu'il y a aussi l'attitude des Québécois. On est tellement fin, on est tellement accueillant, on est tellement tolérant, on veut tellement pas de chicane. Fait que quand on se fait accueillir en anglais, au lieu de se tenir debout puis de se doter d'une colonne vertébrale et d'exiger d'être servi dans notre langue, on va parler en anglais avec la personne parce qu'on se dit « Oh mon Dieu, elle fait donc pitié. » Ben, c'est parce que c'est ça. Tu comprends? Ça se joue aussi, là.
Puis en même temps, il y a des gens qui se forcent, puis il y a des gens, moi j'en connais, là, qui viennent de partout à travers le monde, puis qui ont appris le français, puis ils se débrouillent bien, puis ils ont un accent, ça fait leur charme, mais ils réussissent à bien parler. Mais tu sais, Sophie, c'est pas les autorités, à un moment donné, qu'il faudrait qu'ils soient un peu plus sévères sur les gens qui viennent habiter ici. C'est pas vrai, on se promène, il y a des gens qui viennent d'arriver, qui ont probablement eu leurs papiers, qui sont devenus Canadiens, mais qui sont peut-être allés passer leur licence à Toronto pour venir vivre au Québec. Après, je sais pas, mais c'est pas vrai qu'ils passent un examen en français et qu'ils la réussissent. Ils sont pas capables de dire bonjour.
Mais non, mais c'est intéressant parce que Jean-François Lisée, quand il était au PQ, avait émis l'idée, parce que c'est dans beaucoup de pays européens, quand tu fais ta demande pour immigrer dans le pays, il faut que tu prouves, avant d'arriver au pays, que tu maîtrises la langue du pays. Et donc, les gens à l'étranger vont prennent des cours privés pour apprendre le français, apprendre l'allemand, apprendre plein de langues. Parce que quand tu soumets ta demande, il faut que tu prouves que déjà à l'avance que tu es capable de parler la langue du pays. Et Jean-François, quand il avait fait cette suggestion-là, il s'est fait traiter évidemment de xénophobe, puis de ci, puis de ça. Écoute, je veux absolument qu'on parle du deuxième sujet parce que je trouverais ça vraiment trop triste de passer à côté. Vu que j'ai au bout du micro Monsieur Mode, écoute, depuis dimanche est disponible sur Netflix la 4e saison de la série The Crown sur la monarchie britannique, et c'est les années 80-90, donc c'est l'arrivée de Lady Di, et on voit vraiment, ils ont reproduit vraiment à la couture près les robes iconiques de Lady Di. Ouais. Alors je veux avoir ton opinion là-dessus, parce qu'on voit vraiment l'évolution de sa personnalité avec l'évolution de ses vêtements.
c'est drôle, hein, tu sais, quand on la voit, puis tout en, tu sais, avec sa salopette jaune, qui est toute petite fille à fleurs et qui est devenue finalement une fille, une icône de la mode. Puis les faits qu'elle est décédée aussi très tôt, ça nous laisse cette image-là, hein, de un peu comme Marilyn Monroe, hein, la seule image
oui,
qu'on a, c'est la
vrai.
Fille qui est belle, qui est jeune. Et je trouve ça drôle, puis on voit ça sur plusieurs personnalités. Des fois, quand on regarde les vieilles photos, on a l'air plus vieux, tu sais, plus vieux jeu, plus vieux que dans les nouvelles photos. Et ça, quand on regarde même des personnalités québécoises, tu sais, c'est pour regarder Claudine Desrochers aujourd'hui. Claudine Desrochers, dans le temps des saisons de Claudine, elle faisait plus ma tante, plus vieille, pourtant ça fait 20 ans.
C'est l'habillement qui fait ça. Parce que
c'est les cheveux.
Ouais.
C'est aussi la mode qui est plus actuelle, mais tu sais, Lady Di, quand on la voit danser avec, tu sais, quand c'était là,
oh, mon Dieu.
Danser avec John Travolta, avec sa robe noire, là, c'était comme, wow, là, il y a quelque chose qui se passe, c'est plus la petite fille qui... Puis en même temps, ben, tu sais, Lady Di, on comprend que dans ses costumes, il y a toutes les questions d'image aussi de la monarchie, à quoi il faut faire attention, qu'est-ce qu'il ne faut pas dépasser aussi, là, mais c'est le fun de voir qu'ils sont capables de recréer comme ça, les costumes, un peu comme dans notre film, Sophie, qu'on va voir un jour, Aline, qu'on va voir les costumes de Céline.
Mais là!
Mais cette fois-ci, avec Lady Di.
Non, mais c'est vraiment frustrant parce que Aline, le film de vraiment Valérie Lemercier sur Céline Dion, ça devait être montré à Montréal le 5 novembre dans le cadre du festival Cinémania. Mm-hmm. Et là, évidemment, à cause des restrictions, les cinémas sont fermés. Donc, le cinéma est en ligne, le festival est en ligne, puis on pourra pas, ils vont pas mettre en ligne le film Aline. Je me suis renseignée, je suis super frustrée. Écoute, revenons à Lady Di. Ce qui est vraiment frappant dans la série The Crown, parce que vraiment la reconstitution historique est absolument hallucinante, et c'est de voir aussi que moi je trouve que, tu sais, c'est une discussion qu'on a eue souvent, toi et moi, la mode c'est jamais juste de la mode, c'est jamais juste de la guenille, c'est jamais juste du chiffon, et c'est intéressant de voir à quel point pour cette femme-là qui avait pas d'identité. Tu sais, la monarchie, c'est, il y a la reine, puis tout le monde autour, vous êtes juste des figurants. Puis elle, en plus, était une figurante à côté de Charles, mais que sa façon de s'habiller, ça fait aussi partie du charme qu'elle a exercé. La raison pour laquelle les gens l'aimaient, c'était évidemment sa grande beauté, mais c'était aussi ce qu'elle dégageait de par ses vêtements.
Oui, oui. Tu sais, Lady Di dégageait une femme qui tout le contraire à sa belle-sœur, je trouvais, là, Sarah. Je trouve que Lady Di a dégagé la sagesse, la douceur, le calme, la paix. Je trouvais que c'était vraiment ça qu'elle dégageait. Puis par ses vêtements, ben la même chose. Juste que, tu sais, ben vers la fin, elle commençait à être, tu voyais que, tu sais, elle avait eu peut-être quelques frustrations dans son mariage, puis que même dans ses vêtements, tu le voyais qu'elle voulait plus provoquer, elle voulait plus aller se mettre plus en valeur, je pense, et avoir plus une personnalité là, qui était à elle et non pas ce qu'on lui imposait.
Oui, puis c'est important de mentionner que, écoute, justement, tu l'as dit un petit peu, c'est que au sein de la monarchie, les règles sont très très sévères. Ça nous a été rappelé quand Meghan Markle est arrivée dans la famille royale britannique. Il y a toutes sortes de trucs, tu sais, même la couleur du vernis que tu as le droit de te mettre sur les doigts, c'est régimenté par le bureau de la reine. Et tu sais, c'est la longueur des jupes, il faut que ce soit en dessous du genou, tant de centimètres et tout ça. Fait que quand Lady Di là a envoyé promener le prince Charles, c'est là qu'elle a commencé à dire. Premièrement, elle a commencé à porter des talons hauts parce que quand elle était avec lui, elle était obligée de porter des petites ballerines. Elle était plus grande que lui, puis fallait pas que ça paraisse. Alors elle portait tout le temps des petits talons, des petits souliers. Et écoute, c'est vraiment, elle est devenue femme le jour où elle a quitté la royauté. C'est quand même assez assez fascinant.
Ça
écoute,
doit,
il nous reste quelques temps. Oui, vas-y.
Rester là toute sa vie dans la famille royale, ça doit être une frustration qui doit développer un cancer certain.
Oui, tout à fait. Non, moi non plus. Ça a pas l'air très, très, très le fun. Écoute, je veux absolument qu'on parle des masques artisanaux parce que toi-même, tu en fabriques.
Oui.
Et il y a toute une question d'homologation dont tu voulais nous parler aujourd'hui.
Écoutez, c'est tellement compliqué. On voit dans les nouvelles, là, bon, là, le fédéral parle de 3 épaisseurs, on parle de 2 épaisseurs, on parle de masques avec un plastique pour les garderies, avec beaucoup d'argent qu'on va mettre, des masques qu'on achète, les premiers Québécois jetables, parce que nous, on en faisait déjà des pas jetables. Mais il y a toute, comme on dirait, une gamique dans cette organisation-là de masques qu'on peut pas vraiment savoir c'est quoi. T'sais, j'aimerais ça avoir la recette. T'sais, quand on fait un gâteau aux bananes, on nous dit, mettez 2 bananes, une tasse de sucre. T'sais, dites-nous, qu'est-ce que vous voulez dans la recette? Ce domaine-là, là, on ne connaît rien. Et là, aux nouvelles, on entend un moment donné, ça prend 3 épaisseurs. Mais tu sais, Sophie, 3 épaisseurs. Si j'ai un masque de 3 épaisseurs en chiffon versus un masque 1 épaisseur en jeans, lequel va empêcher le plus la gouttelette?
Ben oui.
Ça va être le 1 épaisseur. Donc, c'est tellement, tu sais, la CNESST, je trouve la misère à dire.
CNESST, ouais.
On appelle là pour savoir où on peut faire homologuer. Puis là, au début, faire homologuer, c'était 5 000 pour ton masque. Hein? On sait comme, ceux qui font des masques présentement, là, on sait pas trop vers où s'en aller. Ce qu'on se rend compte, c'est que le gouvernement veut acheter des masques qui sont jetables. Et pourtant, la pollution de ces masques-là, c'est aberrant, là.
C'est épouvantable, on en voit partout.
Ouais. Ben oui, puis si on le paye 2 $ le masque, là, mais on le change 6 fois dans la journée, il vient de nous coûter 12 $ pour la journée, puis il n'est pas lavable, puis il n'est pas biodégradable. Ouais. Tu sais, à un moment donné, est-ce qu'on serait capable de s'entendre pour faire un masque qui est lavable, de un, pour l'environnement, je parle pas à mon profit à moi, là, parce que des masques, je ne veux pas faire ça toute ma vie, mais pour l'environnement, c'est épouvantable vers quoi on s'en va, parce que les gens portent des masques, jettent des masques, ça reste, écoute, c'est comme quasiment comme des... Tu sais, les couches que tu envoies aux poubelles, là, ça prend des années et des années. C'est la même matière sur le dessus.
C'est un très bon point. Fait qu'écoute, on va devoir éclaircir cette question-là des masques. C'est vraiment pas clair. Puis tu as tout à fait raison. La question de la pollution.
On a besoin d'une recette.
Absolument. Donnez-nous la recette du pain aux bananes, s'il vous plaît, pour les masques, monsieur Trudeau ou madame ou Dr. Tam. Écoute, on en a parlé au tout début. On a parlé de l'anglais au centre-ville. On n'a pas parlé, par contre, d'Olivier Primo et ses fameuses Slice Gang Pizza. Mais je voudrais quand même, à tous ceux qui pensent que la seule façon de réussir, c'est de le faire en anglais, je voudrais dédier, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, Jean, je voudrais dédier cette chanson de RBO, I Want to Pong, et c'est là-dessus qu'on va se quitter. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Jean.
Bonne semaine,
on écoute ça. I want to pong.
Is it the reason that I speak in English?